Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaire, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre service de la Radio de la Paix.
L'accord cadre pour la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC avait été signé le 24 février 2013 à Addis Abeba par 11 pays de la sous-région du Grand Lac sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, cet accord a totalisé déjà 2 ans et lors de la célébration de 2 années d'anniversaire de la signature de cet accord, le thème retenu était la consolidation de la paix et la stabilité pour le développement dans la région du Grand Lac. Je l'ai dit en sommaire avec notre invité, on va chercher à en savoir un peu plus hein, par rapport à cet accord au cadre d'Addis Abeba. Et nous rappelons le numéro des contacts si vous êtes intéressé. Appelez au 081-890-63-94 ou bien faites un SMS au 081-711-50-01. Et puis, il y a également la page Facebook au Capi Service sur laquelle vous pouvez bien réagir. Voilà, M. Gérard Ntumbakani qui, on l'a dit en sommaire, vous êtes directeur de cabinet au mécanisme national du suivi. Alors, on attend souvent parler de cet accord au cadre d'Addis Abeba. C'est quoi cet accord?
Ok, merci beaucoup pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer sur votre radio, Radio Okapi qui est très suivie. J'en profite pour saluer les nombreux auditeurs de la Radio Okapi qui nous suivent à travers tout le territoire national. Alors, l'accord cadre d'Addis Abeba, l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Voilà l'intitulé de l'accord tel qu'il a été signé.
Vous voulez bien répéter l'intitulé exact? Allez-y.
C'est l'accord pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Voilà, voilà l'intitulé de l'accord que nous appelons affectueusement l'accord de l'espoir parce que c'est un accord qui a été signé dans une période assez trouble de notre pays. Vous vous souviendrez, Goma avait été occupée. Dans la foulée, les ex-M23 ont été dégagés par les armes de Goma. Et cet accord, en fait, a permis à toute la communauté internationale de se porter au chevet de la RDC pour aider la RDC à se relever et à mettre fin à ce cycle récurrent de violence, de guerre perpétrée dans la partie est de notre pays. Alors, quand je dis la communauté internationale, alors c'est bien la communauté internationale, parce que tout d'abord, cet accord est signé sous l'égide de l'ONU. Parmi les garants, les accompagnateurs de cet accord, il y a l'Union africaine. Qui dit l'Union africaine dit pratiquement tous les 56 États africains sont membres de l'Union africaine. Aussi la SADC, qui est une organisation régionale. Donc vous trouvez là des pays qui sont en même temps membres de la SADC, membres de l'OUA, qui sont venus signer cet accord. C'est pour vous donner l'importance de cet accord. En plus, il y a des pays qui ont signé à titre individuel. J'aime beaucoup donner l'exemple de l'Afrique du Sud, qui, quand j'explique comme ça aux gens, quand je parle de l'accord cadre, j'ai dit, vous remarquez que l'Afrique du Sud a signé plusieurs fois. D'abord, ils ont signé en tant qu'Afrique du Sud, en tant que pays. Ils ont signé en tant que membre de la SADC, parce que si la SADC signe, signe au nom de tous les pays membres. Ils ont signé en tant que membre de l'Union africaine, parce qu'ils sont membres de l'Union africaine, et ils ont encore signé en tant que membre de la communauté internationale, parce qu'ils sont membres de l'OIN.
Mais pourquoi tout ça, c'est par rapport à l'intérêt que...
Voilà, c'est pour montrer l'intérêt qui a été apporté à cet accord, à qui on a voulu donner un caractère particulier par rapport aux autres accords qui ont été signés, parce que d'aucuns disaient au début, oui, cet accord connaîtra le sort de tous les autres accords qui ont été signés auparavant, c'est-à-dire, il sera classé dans les tiroirs de l'oubliette parce que on ne fera rien pour cet accord. Mais la particularité dans cet accord, c'est que il a été instauré dans l'accord lui-même qui a été signé, et donc à ce titre-là, c'est un engagement, il a été instauré des mécanismes de suivi de cet accord. Il a été instauré un mécanisme national qui suit, en fait, qui est chargé de monitorer la mise en œuvre des engagements nationaux que le gouvernement de la République démocratique du Congo a souscrit. Il y a un mécanisme régional, hein, au niveau de tous les pays de la région, qui est aussi chargé, parce que il n'y a pas que le gouvernement de la RDC qui a pris des engagements, il y a aussi tous les autres pays de la région qui, en signant cet accord, ont également pris des engagements qui les lient, en fait.
Alors, parlons des engagements, puisque vous êtes directeur du cabinet au mécanisme national de suivi. Alors, quels sont les engagements au niveau national?
Voilà, les engagements au niveau national, il y en a six. Il y en a six. Le premier engagement, c'est de poursuivre et d'approfondir la réforme du secteur de sécurité. Quand on parle de secteur de sécurité chez les anglo-saxons qui ont conçu cet accord, il s'agit des secteurs de l'armée, de la police et de la justice. Donc c'est ça le qu'on désigne par l'anacronyme RSS. Donc réforme du secteur de la sécurité. Alors, le deuxième engagement, je voudrais que les auditeurs fassent attention aux termes qui sont utilisés, oui. Les verbes qui introduisent les engagements. Donc, poursuivre et approfondir, c'est-à-dire, on reconnaît qu'il y a un début de quelque chose qui est fait, mais on nous encourage à poursuivre et à approfondir.
Pour améliorer davantage.
Voilà, pour améliorer davantage. Donc, c'est pour dire que, c'est pour un peu répondre aux gens qui disent que l'accord cadre, c'est un dictat de la communauté internationale. Mais vous voyez que les verbes qui sont utilisés ont été choisis pour ne pas, justement, frustrer et énerver des dispositions de souveraineté. Alors, le deuxième engagement, c'est parce que c'est consigné dans notre loi fondamentale, c'est de poursuivre la réforme de la décentralisation.
De poursuivre la réforme de la décentralisation.
Non, j'inverse. Le deuxième engagement, oui, c'est de consolider la présence de l'État sur toute l'étendue du territoire, notamment les territoires qui étaient occupés à l'Est par des groupes armés et tout ça. Et le troisième engagement, c'est celui de poursuivre la décentralisation.
Oui.
Alors, le quatrième engagement, c'est de promouvoir le développement économique. C'est le plus large des engagements, parce que quand vous touchez au développement économique, vous touchez tous les secteurs producteurs d'emplois et donc créateurs de richesses, la santé, l'éducation, les infrastructures et tout ça. Alors, le cinquième engagement, c'est de promouvoir la réforme des institutions de l'État, y compris les finances publiques.
Et le sixième?
Et le sixième, le plus large, du point de vue concept, c'est de promouvoir les objectifs de réconciliation, de démocratisation et de tolérance. Donc voilà les six engagements nationaux que le gouvernement de la République démocratique du Congo, représenté par son président, le chef de l'État, le président Joseph Kabila, qui a apposé la signature au bas de cet accord, nous engage.
Voilà, c'est important. Vous avez rappelé les six engagements au niveau national. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que là, bientôt, certainement, les auditeurs vont déjà commencer à poser des questions. Deux ans après la signature de cet accord, est-ce qu'on peut dire que les choses avancent?
Écoutez, les choses avancent. Les choses avancent, d'aucuns... Vous savez, c'est un peu l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est selon. Mais les choses avancent. C'est vrai, on aurait voulu pour l'intérêt de toute la nation que les choses aillent beaucoup plus vite.
Exactement.
Mais vous savez, les engagements tels qu'ils ont été souscrits au terme de cet accord doivent être traduits par des réformes. Et les réformes, c'est des processus parfois assez longs. Hein, je veux par exemple vous donner un exemple. La réforme qui est entreprise dans le secteur de la police, par exemple, est une réforme qui a été conçue en 2005. Et l'objectif de cette réforme, c'est 2025. Donc vous voyez, c'est sur une période assez longue, vous voyez, parce que c'est vraiment la...
Parce qu'on imagine que le travail doit être bien fait.
Voilà, ouais. Voilà. Le travail doit être bien fait. Il faut affecter à ce travail, aux différentes actions, des moyens conséquents. Hein, et parfois, c'est là notre faiblesse, c'est là notre talon d'Achille. On pêche souvent par l'affectation des moyens conséquents, à la mise en œuvre des réformes et des politiques de développement. Mais qu'à cela ne tienne, c'est ça le travail que nous faisons, mécanisme de suivi.
De suivi.
Nous rappelons les uns et les autres de ce qu'ils doivent faire. Nous ne jouons pas le rôle de gendarme, nous suivons tout simplement les acteurs qui doivent le faire, et qui doit le faire, c'est le gouvernement. Hein, la structure qui est habilitée à mettre en œuvre les réformes dans tous les pays, c'est le gouvernement. Donc nous nous assurons que, d'abord, que le gouvernement a prévu à mettre en œuvre des actions qui doivent traduire la volonté affiché par le président de la République en signant cet accord, parce que c'est un engagement supranational, c'est un engagement qui nous lie, c'est un engagement sur lequel nous sommes jugés de notre sérieux, voyez-vous. Hein? Donc, comme je disais, c'est des processus assez longs, mais par contre, il y a des choses qui étaient déjà faites et qui étaient bien avancées. Mais malheureusement, on ne communique pas assez sur ce qui est fait et sur ce qui est bien fait, voyez-vous. Hein? Moi, j'aime toujours donner un exemple. La réforme de la police, où aujourd'hui la police est du point de vue papier, du point de vue mise en place, vous avez suivi même dernièrement les dernières mises en place qui ont été faites, tout ça concourt. Hein, donc tout ça, c'est des choses qui sont shiftées, qui sont chiffrées dans le plan d'action quinquennale de la police, qui est en fait le levier de cette réforme qui est entreprise au niveau de la police, du point de vue des équipements, du point de vue des ressources humaines, du point de vue des infrastructures, du point de vue, par exemple, les éléments de la police sont complètement aujourd'hui biométrisés, ils ont leur carte d'identité de la police, les militaires aussi, oui. En ont, mais c'est fait environ 70%.
Mais ça se poursuit.
Voilà.
On va poursuivre également avec vous, Jérôme Toumbakani, qui vous êtes directeur de cabinet au mécanisme national du suivi. Nous parlons donc de l'accord cadre d'Addis Abeba. Qu'est-ce qui au niveau national, quels sont les engagements pris au niveau de cet accord? Vous avez suivi l'invité à énumérer les 6 engagements, et avec nous, on va découvrir au cours de l'émission comment ces engagements évoluent. Et nous rappelons également que si vous êtes intéressé par rapport à ces sujets, vous pouvez appeler au 081-890-6094. Nous avons déjà deux auditeurs en ligne, Jean Dambos qui nous appelle de Colouisio Katanga et Albert Mwananga qui est à Kananga au Kassa Occidental.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioKapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Kapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioKapi.net, la radio en différé à votre service.
Jean Dambosch, vous nous appelez du Kolwezi au Katanga, bonjour.
Bonjour, merci. Bonjour à l'expert, à tous les auditeurs de la radio.
On vous écoute.
Résumer en quelques mots les clauses de cet accord d'Addis Abeba. Alors, ma préoccupation est celle-ci. Je voudrais savoir quels sont les préalables qui ont été pris lors de l'élaboration de ces accords d'Addis Abeba au cas où ces derniers semblent être violés par l'une des parties concernées. Voilà ma préoccupation.
Voilà. Merci à Jean Dambosch d'avoir appelé de Colésio au Katanga. Albert Mwananga, vous êtes à Kananga, au Kassa Occidental. Bonjour Albert Mwananga.
Bonjour Monsieur Marcel, bonjour à notre invité. J'ai deux préoccupations à poser à notre invité.
Oui.
Oui, comme l'a souligné Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, lors du 4e sommet de l'Union africaine en marge duquel une réunion d'évaluation de l'accord cadre pour la paix dans la région des Grands Lacs, et particulièrement l'Est de la RDC, le point à l'ordre du jour, c'était la lutte contre l'FDLR. Alors, à ce sujet, j'aimerais demander à notre invité quelles sont les avancées vraiment enregistrées à ce point. À ce qui concerne la lutte contre l'FDLR, parce que c'était ça donc le point à l'ordre du jour lors du 24e sommet tenu à Addis Abeba. Ça, c'est la première question.
La deuxième?
La deuxième, à quel niveau se trouvent les problèmes? Est-ce que au niveau des pays signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération à tenir tous les engagements, comme l'a souligné M. le secrétaire général des Nations Unies?
Mais Albert, quand vous dites à quel niveau se trouve le problème, essayez d'être un peu plus explicite pour qu'on comprenne quel problème.
Bon, surtout dans notre pays, parce que nous parlons, c'est tout le monde qui crie qu'on ne met pas en pratique l'accord cadre d'Addis Abeba. Il y a donc, comme l'a souligné M. l'invité, les points qu'il a souligné. Alors, où se trouve réellement le problème? Est-ce qu'au niveau des pays signataires ou bien au niveau de la volonté ou quoi?
Voilà.
Et comment faire face à ces défis? Comment faire face à ces défis? Ça, c'est ma préoccupation.
Voilà. Merci, Albert Mwananga. Vous avez appelé de Kananga au Kassa Occidental. On revient à notre invité, Gérard Toumba-Kaniki. Alors, par rapport à la question de Jean Dambos qui a appelé de Kolwezi, qui a parlé du préalable au cas où un de pays signataires violait les accords. Là je pense maintenant au niveau régional, les engagements au niveau régional. On a parlé des engagements au niveau national. Et là, je crois que c'est par rapport au niveau régional. Qu'est-ce que vous avez à dire?
Voilà. Je salue l'auditeur Jean Dambosche de Kolwezi, où il doit faire très froid en ce moment. Je compatis avec lui, je partage parce que je connais un peu la région. Alors, ce qu'il faudrait savoir au niveau régional.
Les engagements, par exemple.
Les engagements au niveau régionaux sont simples. Il y en a 7, mais ça se résume globalement en ceci. Les pays de la région s'engage à ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures des autres États, des États voisins. Ils s'engagent aussi de ne pas héberger des groupes armés susceptibles de déstabiliser les pays voisins. Ils s'engagent de collaborer avec la justice régional, donc en ce qui concerne les missions des mandats d'arrêt et tout ça. Il s'engage à promouvoir des projets transfrontaliers, des projets régionaux pour favoriser les échanges entre les frontières. Donc voilà globalement en quoi se résument les engagements régionaux. Et il y a un mécanisme au niveau régional aussi.
Des suivis également.
Voilà, de la même façon que nous sommes ici un mécanisme national de suivi, il y a un mécanisme régional de suivi avec une disposition particulière, étant donné que dans ce mécanisme, les personnalités qui siègent dans ce mécanisme, c'est les chefs d'État. Alors, comme il n'est pas toujours aisé de réunir des chefs d'État, ils ont une disposition particulière qui s'appuie sur une structure qui est appelée le comité d'appui technique. Donc c'est cette structure technique qui travaille au quotidien, qui se réunit à Nairobi autour de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, qui se réunit une fois par trimestre et qui rend rapport notamment donc en marge du sommet de l'OUA au début de chaque année et à la fin de chaque année en marge des assemblées générales de l'ONU. Donc la prochaine réunion aura lieu au mois de septembre à New York en marge des assemblées générales des Nations Unies et la 10e session de cette structure, le 4, le comité d'appui technique, se tiendra le 22 et le 23 à Nairobi et aura déjà à cœur de préparer la rencontre des chefs d'État. Alors, c'est à ce niveau-là, c'est ce dispositif-là qui relève les problèmes, parce que ils ont élaboré ce que nous appelons une matrice avec des indicateurs de suivi pour pouvoir évaluer chaque action qui a été déclinée parfois en plusieurs activités, projets, tout ça, pour voir si les États de la région, effectivement, sont en train, chacun en ce qui le concerne, de respecter ses engagements.
Et par rapport à la question des gens d'embauche, est-ce qu'il y a des clauses spécifiques pour...
Écoutez, moi, je comprends les gens. Donc là, on ne peut pas fonctionner comme à l'école, le mauvais élève, on le tape sur les doigts. Hein, il s'agit quand même des États, il s'agit des chefs d'État, mais je crois que ce dispositif là, quand on fait l'évaluation en marche, une fois au début de l'année du sommet de l'Union africaine et vers la fin de l'année en marche de l'Assemblée générale des Nations Unies, je crois que c'est à ce niveau-là que sont portés les problèmes. Ouais, voyez-vous, c'est à ce niveau-là que sont portés les problèmes et les injonctions qui sont toujours élaborées, évidemment, sanctionnées par un communiqué, mais d'une façon diplomatique pour faire comprendre aux États qu'ils ont l'obligation de respecter leurs engagements.
Alors, et cette question d'Albert Bonanga qui a parlé de la lutte contre le FDLR, et là, on est, je crois, dans le deuxième engagement, il faut consolider... tout à fait.
Voilà. Alors, les FDLR, c'est parmi les forces négatives, n'est-ce pas, qui ont été identifiées. Vous vous souviendrez bien que c'est un processus assez laborieux. On leur avait demandé d'abord de déposer les armes volontairement. Il y a une grande partie, sinon la majorité, qui l'a faite, parce que il y a plus de 600 combattants qui sont cantonnés aujourd'hui, répartis entre le camp général Bahoma Kisangani, entre Walungu et entre Kanyabayonga, avec leurs dépendants. On les a cantonnés là-bas, et effectivement, au départ, dans la conception de l'activité, ces camps étaient des camps de transit et pas des camps où les gens allaient s'installer. Oui. Aujourd'hui, la difficulté est, et là, nous faisons appel à la communauté internationale de venir en aide au gouvernement de la RDC, parce que le gouvernement de la RDC a dit, moi, je ne veux pas de ces gens sur mon territoire. Prenez-les, amenez-les n'importe où, au Rwanda ou n'importe où. Il a été à un moment question de définir un tiers pays, parce que le Rwanda ne voulait pas les avoir, c'est les gens eux-mêmes qui ne voulaient pas partir au Rwanda. Mais voyez-vous, la difficulté de ce genre de truc, il y a un petit noyau dur qui pèse sur le groupe. Je crois que sur des interviews ponctuelles qu'on a essayé de faire, les hommes de troupe, eux, ils en ont marre de mener cette vie de rat dans les brousses avec des enfants qui sont pas scolarisés et tout ça. Ils veulent bien rentrer chez eux, et chez eux, c'est au Rwanda. Mais c'est les chefs qui ne retrouvent pas leur compte en rentrant au Rwanda qui posent comme préalable que la RDC les aide à ce que le Rwanda ouvre un dialogue politique chez eux pour qu'ils aillent. Mais ça, c'est pas le problème.
Et là, je crois que vous répondez déjà à ces deux autres questions d'Albert Mwananga qui a demandé par rapport au FDLR à quel niveau se pose le problème. Je crois que c'est assez...
Voilà. C'est ça, cette difficulté que nous avons aujourd'hui avec pour le problème des FDLR, mais ça coûte de l'argent au trésor congolais, parce que c'est des humains, ils sont cantonnés là-bas, il faut les nourrir et tout ça. Donc c'est vraiment une difficulté réelle, et nous faisons un appel à la communauté internationale de nous aider vraiment non, on ne parle pas de déportation, on ne va pas dire qu'on prenne ces gens-là de force, parce que vous savez, un rapatriement, il a toujours ce caractère qui doit être volontaire, oui. Voyez-vous.
Voilà. On va poursuivre avec deux autres auditeurs qui sont en ligne. Il s'agit de Arsène Odo qui nous appelle de Usumo en Tanzanie, et Fiston Kabamba qui est à Likasi au Katanga. Nous rappelons le numéro de contact pour ceux qui sont intéressés par rapport à ce sujet qui vient de se joindre à nous sur la fréquence de la paix. On est en train de parler de l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est-à-dire aider les auditeurs que vous êtes à mieux comprendre cet accord, de quoi il s'agit, parce qu'on en parle bien souvent encore, cet accord d'Addis Abeba. Et nous en parlons avec Gérard Toumba Kaniki qui est directeur des directeur de cabinet au mécanisme national du suivi.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Arsène Odo, vous nous appelez de Ousumo en Tanzanie, bonjour.
Ok, bonjour, je suis à Ousumo, c'est la frontière entre le Rwanda et la Tanzanie. En fait, je pose à l'invité la question de savoir, bon, aujourd'hui nous avons l'Union Européenne, aujourd'hui nous avons l'ONU, nous avons la communauté internationale, et nous avons aussi bon, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Nous attendons, il y a des réactions, l'Amérique a dit ceci, l'Union Européenne a dit ceci, la communauté internationale a dit ceci. J'ai demandé d'abord à l'invité la différence entre la communauté internationale et les accords de paix d'Addis Abeba. Bon, deuxième question que je demande, bon, la
deuxième question que je demande... Arsène, s'il vous plaît. Personnellement, j'ai pas bien compris votre question. La première, vous voulez savoir la différence entre la communauté internationale et l'accord d'Addis Abeba, c'est ça?
Oui. Donc, la deuxième question que je demande, est-ce que l'accord de paix d'Addis Abeba n'est pas inféodé à l'Union européenne ou bien n'est pas inféodé à la communauté internationale? Parce que nous, les Africains, d'ailleurs, je remercie notre président parce que les actions qu'on est en train de prendre en qualité de l'Union africaine et ces actions-là marchent bien. Mais ce que nous sommes en train de regretter aujourd'hui, lorsque les Africains prennent des décisions, vous vous rendez compte, par exemple, pour le cas de Burundi, les Africains prennent des décisions, mais l'Union européenne va dire non, vous savez, ça c'est faux. Alors, est-ce que vraiment ces accords-là, c'est super par rapport à l'Union européenne ou bien la prise de décision qu'ils prendront? Ils vont demander ça pour les Blancs, ils vont demander d'abord l'ONU, c'est ça parce que, bon, vous savez, on tient d'abord le cas des FDLR. Les Congolais ne sont pas pour qu'il y ait des FDLR demain dans notre pays. Mais vous vous rendez compte, lorsque les accords de paix d'Addis Abeba vont trancher, bon, vous rendez compte aussi l'Union européenne, boude, l'ONU, boude, la MONUSCO, y compris aussi boude. C'était ça ma question deuxième. La troisième question que je demande à nos invités, bon, ces accords de paix d'Addis Abeba, bon, quelque part c'est bon, mais nous nous rendons compte que c'est comme si la prise de décision est tardive, hein. Donc la réaction n'est pas vraiment directement par rapport au problème qu'on a. Par exemple, pour le cas de Beni, on tue les gens, bon, et on ne sent pas la réaction de ces accords-là d'Addis Abeba. Donc c'était ça mon point de vue que je demande à l'autre invité qui me précise directement par rapport à ce que j'ai parlé.
Voilà, merci Arsène Odo, vous appelez Dusumu en Tanzanie. Alors on rentre ici au pays où on va rejoindre Likasi dans la province du Katanga, Fiston Kabamba. Bonjour Fiston.
Bonjour Radio Kassi.
On vous écoute.
Je voulais poser ma première question à l'invité. S'il vous plaît, vous pouvez nous dire comment... des accords et l'air non des pays qui ont signé des accords. Ma deuxième question, c'est celle-ci. Les mêmes pays qui ont signé les accords de ce sont les pays qui arment les rebelles qui les envoient ici au Congo. Nous ne sommes pas les enfants, hein, quand même, pour se dire la vérité. La RDC a déjà signé beaucoup d'accords avec les pays voisins. Les mêmes pays-là qui donnent les armes aux ministres pour venir nos propres frères ici au Congo. Nous avons connu les accords que vous avez signés, je ne sais pas si c'est au Congo-Braza ici, mais qui aboutit à rien. Aujourd'hui, après demain, il y aura encore les autres accords que vous allez encore signer pour les pays voisins. Vous citez le nom des Rwandais, parce que ce sont les Rwandais-là qui viennent aussi ici au Congo. Notre gouvernement n'a rien à dire de part de Rwanda.
Voilà, merci Fiston. Merci Fiston Kabamba d'avoir appelé Likasi au Katanga. On va se rendre au Kasai Oriental dans la ville de Bujimai pour retrouver Alphonse Tshibangu. Bonjour Alphonse.
Bonjour monsieur, bonjour aux autorités de la radio Kasai.
Oui, allez-y, quelle est votre question?
Oui, j'avais une question à poser à l'invité. C'était concernant les accords, les accords de la RDC. Est-ce que le dialogue entrepris par le chef de l'État, c'est celui-là, le dialogue qui se retrouve dans les accords d'Addis Abeba? Est-ce qu'il peut, pourquoi est-ce que les forces négatives de M23 ne sont pas, n'ont jamais été consultées dans des consultations qu'on a subies dernièrement? Mais n'ont jamais été consultées. Et aussi la question du médiateur. Est-ce que l'invité peut nous confirmer si le dialogue qu'on organise dans la République par le chef de l'État, c'est celui-là qui est inscrit, c'est celui-là, alors...
Dans les cadres des accords d'Addis Abeba, voilà, on a compris l'invité. Et c'est justement l'intérêt de cette émission, enfin de ce sujet, sur les accords d'Addis Abeba pour aider la population à mieux cerner cet accord d'Addis Abeba. Merci Alphonse Tchibangou d'avoir appelé de Mbujima au Kasaï Oriental. On revient à Kinshasa pour accorder la parole à Maître Laurent Okito. Maître Laurent Okito, bonjour.
Oui, bonjour.
Allez-y, maître, on vous écoute. Quelle est votre question?
Bon, en tout cas, moi, j'aimerais savoir, par rapport au mécanisme de suivi pour notre style, qu'est-ce qui fait que c'est seulement la RDC qui est régulièrement contactée pour des discussions, et non pas ni le Rwanda, ni le Burundi, tout comme les autres États qui ont aussi, particulièrement, aussi le même problème des groupes armés? Et surtout, quand je puis dire prioritairement, c'est le Rwanda. Parce que le Rwanda crie les FDLR dans notre pays. Mais quand on arrive à cantonner les FDLR pour qu'ils rentrent au Rwanda, les Rwandais n'ouvrent pas de temps pour accueillir leurs propres filles. Et quelle est la réaction de la RDC par rapport à ça?
Voilà. Merci, Maître Laurent Okito. Vous appelez de Kinshasa. On revient à notre invité Gérard Toumba-Kaniki, directeur de cabinet au mécanisme national du suivi. Vous avez suivi en début de cette émission, notre invité a parlé de 6 engagements au niveau national, également aux engagements au niveau régional. Donc, il va répondre à vos préoccupations par rapport à ces engagements pris au niveau national, au niveau régional. Alors, si on peut parler du dialogue, vous avez suivi la question sur le dialogue. Est-ce que ça entre dans les accords au niveau des engagements nationaux?
Ok, je crois que c'est notre compatriote du Kassai, je crois, qui a posé la question.
Oui,
par
Alphonse,
par rapport au dialogue. C'est vrai que la plupart des politiciens utilisent peut-être à tort ou à raison cette justification en disant l'accord, le dialogue, selon l'accord cadre d'Addis Abeba. Vous avez suivi les 6 engagements que la République démocratique du Congo a souscrit. Et le dialogue, ma foi, on peut le classer dans l'engagement 6 qui stipule la promotion
des objectifs
de réconciliation, démocratie et tolérance. Et si on veut comprendre que la réconciliation est un objectif d'un processus mené, alors ce processus-là, c'est le dialogue. Parce qu'il faut se parler d'abord entre personnes qui étaient fâchées, vous vous parlez d'abord, et puis au terme de ce processus de se parler, vous vous réconciliez pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. C'est comme ça qu'il faut comprendre cela. Mais dans l'accord cadre d'Addis Abeba, il n'a pas été dit explicitement ce que les gens veulent dire. Mais c'est par souci de pédagogie que nous disons que la réconciliation qui est prônée. Parce que cet accord, c'est la réconciliation. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a signé et s'est engagé à mettre en œuvre en toute souveraineté. Donc quand il dit « je m'engage pour promouvoir les objectifs de réconciliation », c'est ça le processus qui est en cours. Hein? Si je m'en remets un peu à une histoire récente, au mois de décembre de l'année passée, Monsieur Étienne Tshisekedi avait adressé une lettre à Monsieur le représentant du secrétaire général des Nations Unies, le chef de la MONUSCO, Monsieur Kobler, où il lui demandait justement d'organiser le dialogue suivant l'accord cadre d'Addis Abeba. Mais il faut que l'accord cadre d'Addis Abeba dans cette séquence soit disons, s'appuie aussi sur les deux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment la 2098 et la 2211, la toute dernière du mois de mars, qui, dans les missions qui sont dévolues au chef de la MONUSCO, il lui demande de mettre à la disposition ses bons offices pour faire en sorte que les différentes parties prenantes puissent se parler, puissent dialoguer, pour pouvoir ouvrir une voie à des élections apaisées. C'est-à-dire que le Conseil de sécurité a constaté qu'en y allant comme ça, la façon dont les choses étaient en train de se passer, hein, on risquait d'arriver à des élections qui allaient de nouveau ouvrir la brèche à des contestations et tout ça. Et pour faire en sorte qu'on arrive à un processus apaisé, je crois qu'il fallait ensemble définir les conditions dans lesquelles, si ces élections sont organisées, qu'on puisse alors dire que les résultats qui sortiront de ces élections seront acceptés par tout le monde et seront opposables à tout le monde. Moi, je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Alors,
Arsène,
je reste toujours sur, je vais essayer de ramasser la question de M23. Le M23, c'est une force négative, elle a été vaincue, ils ont été dégagés. Il y a des arrangements particuliers, notamment les déclarations de Nairobi. Hein, heureusement d'ailleurs, c'est le mécanisme national de suivi qui a été chargé aussi de la mise en œuvre de la déclaration de Nairobi, donc c'est un sujet sur lequel nous travaillons et que nous connaissons bien. La situation exacte des M23 aujourd'hui, les M23 ne se sont pas encore, et pourtant c'est un engagement qu'ils avaient pris, qu'au terme de ce processus, ils allaient se muer en parti politique. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu une demande enregistrée au niveau du ministère de l'Intérieur pour dire que les M23 est constitué un parti politique pour qu'on puisse les consulter tel que le veut notre frère ici, en vue du dialogue qui arrive. Pour le moment, nous sommes en train de traiter des ex-combattants M23 qui ont rejoint le processus de DDR, qui sont à Kamina. Il y en a 186 qui sont venus de l'Ouganda et 13 seulement qui sont venus du Rwanda et qui ont rejoint le processus de démobilisation à Kamina. Nous irons encore une fois sur demande des chefs d'État de la CIRGL au terme du dernier sommet qui s'est tenu à Luanda pour aller dire à ceux de nos compatriotes qui sont encore là que ce processus, on ne va pas rester éternellement encore dans 2 ans à parler des ex-M23. On va aller leur porter un message fort, le dernier cette fois-ci, ou vous montez dans l'avion qui est là, ou vous ne montez pas. De toutes les façons, le rapatriement est volontaire.
Voilà. Et puis, on va poursuivre, parce que vous avez beaucoup de questions sur les pays signataires, sur le fait que, d'après Arsène, l'accord de paix sera inféodé par la communauté internationale. Vous allez expliquer tout ça. Mais tant pour nous d'accueillir d'abord un dernier auditeur qui est en ligne, c'est Maître Guilain Douga, qui nous appelle de Kinshasa. Maître Guilain Douga, bonjour.
Bonjour, Radio Capi.
On vous écoute.
Ok, j'ai suivi l'invité dans le tableau qu'il a peint. Il a eu à démontrer que cet accord-là a 2 dimensions. Une dimension régionale et une autre dimension qui est interne. Parce que dans le liminaire de l'émission, vous avez dit que c'était, n'est-ce pas, par rapport à l'évaluation. Je n'entends pas parler de l'évaluation, surtout sur le plan interne. Parce que moi, je voulais savoir, est-ce que d'après lui, n'est-ce pas, par rapport à la promotion de la démocratisation, n'est-ce pas, à l'interne, et comment est-ce qu'il peut évaluer ce protocole d'accord? Parce qu'il a cité d'une manière un peu en vrac la question d'M23, mais il n'y a pas que ça, il y a autre chose qui laisse un peu d'évaluer, n'est-ce pas, pour nous les auditeurs, d'après lui, si... N'est-ce pas? C'est positif ou bien c'est négatif? Voilà un peu la question que j'avais à poser à ce stade du débat.
Merci, Maître Guilain Douga, d'avoir appelé Kinshasa. J'aurais tout directement la question l'évaluation.
Je voudrais rassurer Maître Douga et Maître Okito aussi, que je salue en passant et qui ont posé des questions tout à fait pertinentes. Mais Maître, vous vous rendrez bien compte qu'il est très difficile dans une émission de 50 minutes. Donc là, franchement, faites un plaidoyer auprès de Radio Okapi pour que la semaine prochaine, si on peut encore programmer
une émission, par engagement,
parce que voilà, on pourrait peut-être passer thème par thème. Exactement. Parce que c'est difficile comme ça. Il y a plusieurs questions. J'essaie de satisfaire tous les auditeurs, mais je l'ai dit peut-être en passant. Je ne sais pas si Maître Douga était déjà en ligne. Les engagements nationaux se traduisent essentiellement en des réformes. Hein, et j'ai dit que des réformes, c'est des processus qui parfois prennent le temps. J'ai démontré ici, par exemple, que la réforme de la police qui a été initiée en 2005, son objectif, là où on espère arriver vraiment aux résultats finaux de cette réforme, c'est en 2025. C'est en 2025 qu'on espère dire à ce moment-là que voilà, le policier congolais sera arrivé au standard des policiers des autres pays du monde. Donc vous voyez que c'est un processus assez long. Il y a plusieurs réformes qui sont entreprises. Ça, je crois que avec votre concours, si vous insistez, si on peut arriver à faire des émissions. Aujourd'hui, c'est la toute première émission qu'on fait sur l'accord cadre, mais le plaidoyer sera fait pour que dans la suite, on puisse peut-être revenir pour prendre thème par thème.
Alors, je voudrais déjà rassurer Maître Guilla Douga qu'au niveau de la direction de la Radio Capi, il aura effectivement une série d'émissions par rapport aux différents thèmes de cet accord cadre, surtout les engagements pour expliquer par rapport à chacun des engagements comment les choses avancent.
Voilà.
Donc Maître Guilla Douga peut s'être tranquille.
Voilà, parce que si jamais je commence à détailler maintenant, par exemple, dans la réforme de l'armée, qui est fait, le nombre de bataillons à réaction rapide qui sont constitués, les textes organiques qui sont menés dans le cadre de la loi de programmation de l'armée, tous les efforts qui sont faits dans la réhabilitation des infrastructures, les commandants des grandes écoles de guerre qui sont mises en place. Donc ça va prendre assez de temps, maître. Ce que j'ai dit, c'est que il y a beaucoup de choses à faire. Le chantier est tellement vaste que les quelques choses qui sont faites ne suffisent pas encore pour contenter les gens, pour que dire finalement c'est fait. J'aime à dire que voilà, si vous prenez une barre comme exemple sur l'abscisse des Y, nous sommes en dessous de zéro. Mais tout l'effort qui doit être fait pour qu'on arrive à zéro et pour que ça commence à être positif et enfin être visible aux yeux des compatriotes, il y a encore du chemin à faire.
Voilà, il est important pour nous de on s'achemine vers la fin de cette partie de l'émission sur ce sujet, sur l'accord cadre d'Addis Abeba, dont vous allez m'aider encore, je me trompais, sur les engagements. Vous avez parlé du premier engagement qui a été à poursuivre et approfondir la réforme des sécurités, c'est-à-dire ça concernait la justice, l'armée et la police. Vous avez également parlé de la consolidation de la présence de l'État sur toute l'étendue du pays. Vous avez également parlé de promouvoir le développement économique, ça faisait partie des engagements, également pour voir la réforme des institutions de l'État, et puis également pour ceux les objectifs de réconciliation, de démocratie et de tolérance. Donc on va revenir engagement par engagement voir qu'est-ce qui a été fait.
Mais si vous permettez, je veux vite répondre à Alphonse du Kassai pour la question du dialogue. Il voulait savoir s'il était institué un médiateur pour le dialogue. Dans ce que j'ai dit, je ne vois aucun endroit où il a été parlé d'un médiateur, qu'il soit international ou quelque chose comme ça. Donc, mais je reviens sur une chose importante, c'est des engagements qui ont été souscrits par la République démocratique du Congo et qu'il va appliquer en toute souveraineté. Donc, sur ce fait-là, il n'y a pas d'ingérence possible, parce que ça a été dit, et je crois que...
Et là, j'aurais l'impression d'escamoter la question d'Arsène, lui, qui a parlé de la communauté internationale, et là, comme l'impression...
Oui, la communauté internationale, Arsène, vous devez savoir que nous, RDC, nous faisons aussi partie de la communauté internationale. Il est tout à fait normal que, quand on a des problèmes chez nous, que toute la communauté internationale vienne à notre chevet. Nous ne pouvons pas aujourd'hui prétendre faire quelque chose en dehors de ce qui est défini dans le concert des nations. L'Union européenne est un partenaire incontournable pour la République démocratique du Congo, ils interviennent dans pas mal de secteurs, le secteur de la santé, le secteur des infrastructures et tout ça. La Banque mondiale nous accompagne, la BAD nous accompagne. D'ailleurs, la Banque mondiale a été citée comme accompagnateur. L'Union européenne a été citée comme accompagnateur et ils sont tenus à aider la République démocratique du Congo à mettre en œuvre les engagements qu'ils ont souscrits au terme de cet accord.
Alors, les 11 pays signataires, question
de Fiston Kabamba. Les 11 pays signataires, c'est simple. Je vais renvoyer M. Fiston Kabamba à son cours de géographie. C'est les 9 voisins de la RDC, ok? Les 9 voisins de la RDC, plus l'Afrique du Sud, hein? Et en fait, 11, quand on dit 11, c'est, en fait, c'est 10. Parce que le 11e, c'est la RDC elle-même.
Ah, hein,
donc, c'est les 9 voisins, plus l'Afrique du Sud, qui est un peu plus loin. Mais récemment, une année après la signature de l'accord, il y a 2 pays qui nous ont rejoints. Hein, c'est le Nouveau-Soudan, okay, c'est le Soudan du Sud, et le Kenya, qui n'avait pas signé Addis Abeba. Hein. Donc, actuellement, on dit que c'est un accord qui lie 13 pays. Mais dans les 13, la RDC est...
Voilà, Gérard Toubakani, qui est le directeur de cabinet au mécanisme national du suivi. Merci d'avoir été des nôtres pour parler de l'accord cadre d'Addis Abeba. Nous espérons en tout cas vous retrouver très prochainement pour aborder les différents engagements et puis voir comment les choses évoluent. En tout cas,
avec plaisir.
Merci d'avoir été des nôtres.
C'est moi qui vous remercie.